On entend parfois des histoires pathétiques de parents qui ont tout essayé pour ramener leurs enfants dans le droit chemin, mais sans succès. Curieusement, c'est aussi l'expérience de l'Éternel vis-à-vis du peuple d'Israël. Je continue de lire dans le chapitre 65 du livre d'Ésaïe. Oui, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'est pas bon, au gré de ses pensées, un peuple qui sans cesse provoque ma colère ouvertement. Ses habitants offrent des sacrifices dans les jardins sacrés et brûlent des parfums sur les autels de briques. L'Éternel est décrit comme un père qui supplie ses enfants rebelles. Non seulement ils ne font pas ce qu'il leur ordonne, mais ils désobéissent impudemment au grand commandement de la loi en se livrant à l'idolâtrie, dans les bocages sacrés réservés aux fausses divinités. Je continue. Ils s'asseyent parmi les tombeaux pour consulter les morts et passent la nuit dans les grottes. Ils consomment du porc et remplissent leurs plats de mets impurs. Les Israélites violent tous les aspects de la loi de Moïse. Ils pratiquent la nécromancie et la divination dans les cimetières et mangent du porc qui provient d'animaux offerts aux sacrifices et aux idoles. Je continue. Ils crient « Reste où tu es et ne m'approche pas, car je suis trop sacré pour toi. Ces choses sont pour moi comme de la fumée qui me monte aux narines, un feu qui brûle tout le jour. » Les Israélites idolâtres sont initiés à des cultes mystérieux par des cérémonies de purification. Après ce rite de passage, et se croyant en possession d'une sainteté magique supérieure, ils disent aux profanes, c'est-à-dire les adorateurs fidèles de l'Éternel, de respecter en eux leur caractère sacro-saint et de ne pas les souiller par leur contact. Dieu s'insurge, signalant que ces idolâtres subiront sa colère, décrite comme un feu qui ne s'éteindra jamais. Le moins qu'on puisse dire est que ça va chauffer. Je continue. Mais tout cela reste écrit devant moi. Je ne me tairai plus. Je leur ferai payer jusqu'au bout. Je leur ferai payer leurs crimes, dit l'Éternel, en même temps que ceux de leurs ancêtres, car ils ont brûlé des parfums sur les montagnes et ils m'ont outragé sur les collines. Oui, je leur ferai payer jusqu'au bout ce que mérite leur conduite passée. La mention de l'idolâtrie des Israélites est consignée par écrit signifie que l'échantiment est arrêté et irrévocable. Il faut dire que leur péché ne date pas d'hier. Les contemporains d'Ésaïe continuent à suivre l'exemple de leurs ancêtres, et ce, malgré les avertissements répétés des prophètes. Mais la coupe est comble, et tout le poids des fautes accumulées depuis des siècles va remonter sur la tête de la génération qui subira l'invasion babylonienne. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel. De même que l'on dit, quand on trouve une grappe bien juteuse sur une vigne, ne la détruisez pas, car il y a en elle quelque chose de bon. Moi, je ferai de même à cause de mes serviteurs. Israël est comparé à une mauvaise vigne, où se trouvent néanmoins quelques bonnes grappes que l'on veut conserver. L'Éternel promet de retirer ses fidèles de la masse du peuple voué au châtiment. Je continue. Pour ne pas tout détruire, je ferai sortir de Jacob une postérité, oui, de Juda, des gens qui prendront possession de mes montagnes. Mes élus les posséderont, mes serviteurs y feront leur demeure. La plaine du Saron sera un pâturage pour le menu bétail. Et la vallée d'Achor, un gîte pour les bœufs au profit de mon peuple qui se sera tourné vers moi. Le reste fidèle constituera le nouvel Israël. Il possédera la totalité du pays, depuis la plaine de Saron à l'ouest jusqu'à la vallée d'Achor à l'est et au nord-ouest de la mer Morte près de Jéricho. Ces endroits sont d'une fertilité exceptionnelle. Je continue. Mais quant à vous qui abandonnez l'Éternel et qui négligeait ma montagne sainte, qui dressait une table à Gad et remplissait la coupe pour Médi. Je vous destine au glaive, et vous vous courberez pour passer tous à l'abattoir, puisque j'ai appelé et que vous n'avez pas répondu, et puisque j'ai parlé et que vous n'avez pas écouté, puisque vous avez fait ce que je trouve mal et que vous vous êtes complu dans ce qui me déplaît. Gad, le dieu du bonheur et de la fortune, est identifié à la planète Jupiter et Médi, le dieu du destin à Vénus. Ésaïe fait un jeu de mots entre destin et la menace quand il dit « Je vous destine au glaive ». Jupiter et Vénus sont considérés comme des astres de bon augure. Et ils étaient d'usage de faire des offrandes et des repas en honneur de ces divinités païennes. Selon l'historien grec Hérodote, à Babylone, à l'étage supérieur du grand temple dédié au dieu Nébo, se trouvait une table d'or et un divan somptueux sur lequel, selon la coutume, on mangeait à demi-couché. Je continue. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger, et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse, et vous, vous serez dans la honte. Mes serviteurs crieront de joie, car ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur. Vous pousserez des cris, vous vous lamenterez, l'esprit tout abattu. Votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, fera que vous mouriez, mais à ses serviteurs, il donnera un nom nouveau. En cinq antithèses, qui constituent un hymne funèbre ou un chant d'imprécation, Ésaïe établit un contraste cinglant entre le sort des serviteurs de Dieu et celui de ses ennemis. Les premiers seront les paisibles possesseurs de la terre promise et de toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Les autres seront privés de tout et de leurs noms serviront d'imprécation, c'est-à-dire à maudire quelqu'un. Les fidèles israélites, par contre, recevront un nom nouveau pour remplacer le nom funeste de l'ancien Israël rebelle. Je continue. Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. En effet, les maux du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. Pour bénir, les fidèles utilisent le nom du Dieu de vérité, celui dont la parole est toujours vraie. Cette prophétie nous transporte dans le millénium quand le règne de justice du Messie s'étendra aux quatre coins de la terre. Je continue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Les choses d'autrefois sont le monde actuel avec toutes ses détresses. La joie des élus sera telle qu'il n'y aura plus de place pour leur mémoire, pour des regrets ou de mauvais souvenirs. Dieu effacera tout ce qui est négatif dans notre mémoire. Ésaïe a déjà parlé plusieurs fois de la destruction du monde et d'une création nouvelle. Mais sa description se confond avec le millénium. Il faut savoir que, voyant les choses de loin, les prophètes de l'Ancien Testament ne font pas de distinction entre les temps et les moments. Tout se télescope car la chronologie des événements leur échappe. Le futur se présente à eux dans sa totalité sous la forme de tableaux uniques ayant la terre pour cadre. Ce qui fait qu'ils font l'amalgame entre le millénium et l'éternité. Le Nouveau Testament, par contre, distingue deux phases successives dans l'avenir. Il annonce premièrement une époque où le règne de Dieu sera établi sur la terre. Le mal sera contenu, mais non supprimé, puisqu'au terme du millénium aura lieu une dernière explosion des forces sataniques qui sera suivie du jugement universel. La deuxième phase de l'avenir décrite par le Nouveau Testament est l'éternité future est la Jérusalem céleste qui fera partie de la nouvelle création. Parfois, les prophéties d'Ésaïe présentent un état de perfection qui dépasse les limites de toute existence terrestre. Mais d'une manière générale, pour les prophètes, la Jérusalem céleste est la même que la Jérusalem terrestre restaurée, siège du règne du Messie. Et, comme je l'ai dit, le millénium se confond avec la nouvelle création. C'est un peu compliqué, j'en conviens. Pour Ésaïe, c'est donc sur terre que vivent les élus, mais dans des conditions paradisiaques cependant. Le péché et la mort, bien que restreints, existent toujours. Sa prophétie se rapporte donc avant tout au millénium, quand la vie sur terre sera proche des conditions qui existaient dans le jardin d'Éden. Ces 1000 ans de règne du Christ seront à la fois le couronnement de l'histoire humaine et la transition entre la terre ancienne restaurée et les nouveaux cieux avec la nouvelle terre. Je finis le chapitre 65 d'Ésaïe en compressant. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune que de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront des fruits de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront d'une race bénie par l'Éternel, et leur postérité le sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore, que j'aurai déjà entendu. Les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière, il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Les gens vivront plusieurs siècles, comme les premiers patriarches. Et il faudra avoir commis des fautes graves pour mourir à seulement 100 ans. Il n'y aura plus ni hospice, ni hôpitaux, ni calamité, ni crainte, et chacun jouira paisiblement du fruit de son travail. Calvin a dit, « Quand Dieu cessera d'être en colère contre nous, nous serons heureux. » La malédiction qui pèse sur nous sera levée, et la prospérité sera universelle car le monde, la nature et les hommes seront bénis. Même le loup et la chèvre de M. Seguin feront bon ménage. Les animaux n'auront plus ni crocs à serrer, ni griffes ensanglantées. La loi du roi des rois remplacera la loi de la jungle. Un lion qui se nourrit de foin fera parfaitement sourire un sceptique, mais je lui répondrai que s'il est capable de créer un lion, moi, je lui ferai manger de la paille. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre du livre d'Ésaïe, que je commence à lire. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel. La terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici. Sur qui je porterai un regard favorable? Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Ésaïe, indigné, s'élève contre l'idée répandue qu'un mérite est attaché à une pratique religieuse. Les Israélites croient même rendre service à l'Éternel en lui bâtissant un temple et en lui offrant des sacrifices prescrits par la loi. Mais le vrai culte est de nature spirituelle, et le seul sanctuaire où Dieu peut réellement habiter sur terre est le cœur de l'homme qui s'humilie devant lui et obéit, à sa parole. Ce sera dégrader l'Éternel, insulter sa majesté et faire de lui une idole que de prétendre l'enfermer dans une bâtisse et s'acquitter de son devoir envers lui par des offrandes, comme si le Créateur qui a fait toutes choses avait besoin de quoi que ce soit. Le premier livre des Rois rapporte que quand Salomon a dédicacé le temple, il a exalté la grandeur du Seigneur en disant que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir, combien moins ce temple que je viens de construire. Ésaïe semble faire allusion à ce passage. Je continue le texte du chapitre 66. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc. Et celui qui fait brûler de l'encens, c'est une idole qu'il bénit. Les Israélites sont religieux pour la forme. Ils accomplissent indifféremment des actes cultuels conformes à la loi et d'autres qui la violent de manière flagrante et grave, comme le meurtre ou l'idolâtrie. Je continue le texte plus loin. « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui la respectez. Voici, ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom ont dit, que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils le méritaient. » Calvin dit, « L'Éternel paraîtra pour le bien des fidèles et pour la ruine de tous ceux qui nient qu'ils doivent apparaître. » Dans ce passage, Ésaïe encourage les fidèles qui sont méprisés et rejetés par les Israélites idolâtres et qui se moquent des promesses de Dieu. Je continue. « Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. » Qui donc a entendu rien de pareil? Et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître? Dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde? A dit ton Dieu. Dans cette prophétie difficile à interpréter, il est question d'un garçon et de fils qui naissent soudainement. Il s'agit chaque fois d'une personnification d'un nouveau peuple de Dieu ayant le Christ pour chef. En effet, souvent, dans le livre d'Ésaïe, le Messie se confond avec sa descendance, c'est-à-dire les serviteurs fidèles de l'Éternel. On trouve le même phénomène dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul appelle Jésus le premier-né d'un grand nombre de frères, et dans l'Épître aux Galates, où la Jérusalem céleste personnifiée est appelée par Paul la mère de tous les croyants. Par ailleurs, il existe un parallélisme entre ce passage d'Ésaïe, où Jérusalem donne naissance au nouveau peuple de Dieu, et le passage de l'Apocalypse, où Jérusalem est décrite enfantant Jésus-Christ. Tout ça montre que le garçon et les fils représentent ensemble le nouveau peuple de Dieu. Ésaïe prophétise donc qu'à la fin des temps, Jérusalem et Israël sont attaqués et vaincus par l'Antichrist. Mais soudainement, Jésus-Christ revient et détruit ses ennemis. La nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre, et tous les Juifs de la diaspora qui n'ont pas péri reviennent en masse dans leur pays. À eux se joignent alors tous les croyants du monde entier, et ensemble ils forment ce nouveau peuple de Dieu, qui entre dans les 1000 ans du règne du Christ. Les persécutions, loin d'avoir été inutiles, ont permis de créer le nouveau peuple de Dieu. Je continue le texte en compressant. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasié, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Vous serez allaité et porté sur la hanche, bercé sur les genoux, comme un enfant que sa mère console. Je vous consolerai, car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, comme il s'irritera contre ses ennemis. Les fidèles, qui ont si longtemps gémi à cause du sort de Jérusalem, peuvent et doivent désormais se réjouir de sa prospérité. Et eux-mêmes jouiront de la paix et de la gloire en son sein. Dieu joue ici le rôle d'une mère qui console son peuple des peines de l'exil à venir ainsi que des persécutions de la fin des temps. Je continue en compressant. Car l'Éternel va venir dans le feu et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur. C'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement et avec son épée qu'il châtiera tous les humains. Il s'agit du jugement universel présenté sous forme de bataille meurtrière où l'Éternel apparaîtra comme un guerrier au milieu d'une tempête dévastatrice. Je continue. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré, suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble, l'Éternel le déclare, car je connais leurs desseins et leurs actes. Isaïe rappelle les rites idolâtres et les séances d'initiation par lesquelles les Israélites se rendent coupables. Je continue. Voici, je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toutes langues. Ils viendront et verront ma gloire. L'Éternel rassemble les nations qui viennent combattre Jérusalem, car c'est devant les murs de la ville qu'elles seront détruites. Je continue. Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations à Tarsis. Poules et Loud, dont les gens tendent l'arc à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Le signe est la manifestation de la gloire de Dieu qui décime les armées venues attaquer Jérusalem. Ceux qui échappent au carnage rentrent chez eux, proclamer aux habitants de la terre la puissance de Dieu. Ésaïe cite les lieux les plus éloignés du monde d'Israël. L'Espagne, la Somalie, la Libye, le sud-est de la mer Noire, la Grèce et l'Occident. Je continue le texte en compressant. Et ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires, jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Et même, parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des lévites, dit l'Éternel. Les peuples soumis à l'Éternel viennent à Jérusalem pour l'adorer et ramènent les Israélites qui étaient dispersés parmi eux. Certains de ces non-juifs occuperont même une fonction sacerdotale, alors que sous l'ancienne alliance, seuls des Lévites possèdent ce privilège. Le mur qui sépare depuis toujours Israël des non-juifs n'existera plus. Je continue. Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi. L'Éternel le déclare. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Le nouvel Israël perdurera éternellement comme le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je continue. Il adviendra alors que, régulièrement, à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Tout comme les Israélites se rassemblaient à Jérusalem pour les fêtes, des représentants de tous les peuples s'y rendront régulièrement pour adorer l'Éternel. Je finis de lire le chapitre 66 du livre d'Ésaïe. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et les vers qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais et ils feront horreur à tout être vivant. Cette conclusion est la reproduction développée des refrains menaçants qu'on a déjà rencontrés deux fois. En sortant de la ville sainte, les adorateurs verront un charnier, vestige du champ de bataille où ont péri ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel. Ces ossements seront comme un éternel monument à la justice de Dieu. Le livre d'Ésaïe n'est pas un conte de fées où tout est bien qui finit bien. Il se termine par une sérieuse mise en garde qui donne froid dans le dos. À chacun d'en tenir compte.